Many supplements on the market are hard to absorb or packed with fillers, but that's not the case with Quiksilver Scientific. Quiksilver Scientific is a U.S.-based company that manufactures advanced liposomal supplements, making nutrients easier for your body to absorb and put to work quickly. Made in Colorado in an NSF GMP-certified facility and rigorously tested, this is science-first supplementation. After adding ultravitamin into my routine, recovery feels faster and I don't hit that midday crash anymore. Trusted worldwide for supplements that truly make a difference in performance, resilience, and well-being. Quiksilver Scientific makes advanced liposomal supplements so you can actually feel the difference. Energy, focus, calm, recovery. Get 10% off plus free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Hey, what's up, y'all? Kelly Clarkson with Wayfair. My favorite thing about the holidays? Decking out my whole house. It's not a competition, but if it was, well, I'd win the season with Wayfair. Outdoor inflatable Santa? Got it on Wayfair. Trees, lights, and ornaments? Wayfair. Hosting must-haves like dining sets, beds, sheets, and towels? Wayfair. For everything in your style delivered with fast and free shipping, visit Wayfair.com or the Wayfair app to win the season. But again, it's not a competition.
Wayfair, every style, every home.
Chapitre 8 de Le Portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Le Portrait de Dorian Gray by Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu, chapitre 8. Midi avait sonné depuis longtemps quand il s'éveilla. Son valet était venu plusieurs fois sur la pointe du pied dans la chambre, voir s'il dormait encore, et s'était demandé ce qui pouvait bien retenir si tard au lit son jeune maître. Finalement, Victor entendit retentir le timbre, et il arriva doucement, portant une tasse de thé et un paquet de lettres sur un petit plateau de vieux Sèvres chinois. Il tira les rideaux de satin olive au dessin bleu, tendus devant les trois grandes fenêtres. « Monsieur a bien dormi ce matin, » remarqua-t-il, souriant.
« Quelle heure est-il, Victor ?» demanda Dorian Gray paresseusement.
« 1h15, monsieur. »
« Si tard !» Il s'assit dans son lit et, après avoir bu un peu de thé, se mit à regarder les lettres. L'une d'elles était de Lord Henry et avait été apportée le matin même. Il hésita un moment et la mit de côté. Il ouvrit les autres nonchalamment. Elle contenait la collection ordinaire de cartes d'invitation à dîner, de billets pour des expositions privées, des programmes de concerts de charité et tout ce que peut recevoir un jeune homme à la mode chaque matin durant la saison. Il trouva une lourde facture pour un nécessaire de toilette Louis XV en argent ciselé qu'il n'avait pas encore eu le courage d'envoyer à ses tuteurs, gens de jadis qui ne comprenaient point que nous vivons dans un temps où les choses inutiles sont les seules choses nécessaires. Il parcourut encore quelques courtoises propositions de prêteurs d'argent de Jermyn Street qui s'offraient à lui avancer n'importe quelle somme aussitôt qu'il le jugerait bon et aux taux les plus raisonnables. 10 minutes après, il se leva, mit une robe de chambre en cachemire brodée de soie et passa dans la salle de bain pavée en onyx. L'eau froide le ranima après ce long sommeil. Il sembla avoir oublié tout ce par quoi il venait de passer. Une obscure sensation d'avoir pris part à quelque étrange tragédie lui traversa l'esprit une fois ou deux, mais comme entouré de l'irréalité d'un rêve. Aussitôt qu'il fut habillé, il entra dans la bibliothèque et s'assit devant un léger déjeuner à la française, servi sur une petite table mise près de la fenêtre ouverte. Il faisait un temps délicieux. L'air chaud paraissait chargé d'épices. Une abeille entra et bourdonna autour du bol bleu dragon, rempli de roses d'un jaune de soufre, qui était posé devant lui. Il se sentit parfaitement heureux. Ses regards, tout à coup, tombèrent sur le paravent qu'il avait placé devant le portrait, et il tressaillit.
« Monsieur a froid ?» demanda le valet en servant une omelette. « Je vais fermer la fenêtre. »
Dorian secoua la tête. « Je n'ai pas froid. » murmura-t-il. Était-ce vrai? Le portrait avait-il réellement changé? Ou était-ce simplement un effet de sa propre imagination
qui lui avait montré une expression de cruauté là où avait été peinte une expression de joie. Sûrement une toile peinte ne pouvait ainsi s'altérer. Cette pensée était absurde. Ça serait un jour une bonne histoire à raconter à Basile. Elle l'amuserait. Cependant, le souvenir lui en était encore présent. D'abord, dans la pénombre, ensuite, dans la pleine clarté, il l'avait vue, cette touche de cruauté autour de ses lèvres tourmentées. Il craignait presque que le valet ne quittât la chambre, car il savait qu'il courrait encore contempler le portrait sitôt seul. Il en était sûr. Quand le domestique, après avoir servi le café et les cigarettes, se dirigea vers la porte, il se sentit un violent désir de lui dire de rester. Comme la porte se fermait derrière lui, il le rappela. Le domestique demeurait immobile, attendant les ordres. Dorian le regarda. « Je n'y suis pour personne, Victor, » dit-il avec un soupir. L'homme s'inclina et disparut. Alors il se leva de table, alluma une cigarette et s'étendit sur un divan au luxueux coussin placé en face du paravent. Il observait curieusement cet objet, ce paravent vétuste fait de cuir de cordoue doré, frappé et ouvré sur un modèle fleuri datant de Louis XIV, se demandant s'il lui était jamais arrivé encore de cacher le secret de la vie d'un homme. Enlèverait-il le paravent, après tout? Pourquoi pas le laisser là? À quoi bon savoir? Si c'était vrai, c'était terrible. Sinon, cela ne valait pas la peine qu'on s'en occupât. Mais si, par un hasard malheureux, d'autres yeux que les siens découvraient le portrait et en constataient l'horrible changement, que ferait-il si Basil Hallward venait et demandait à revoir son propre tableau? Basil le ferait sûrement. Il lui fallait examiner à nouveau la toile. Tout, plutôt que cet infernal état de doute. Il se leva et alla fermer les deux portes. Au moins, il serait seul à contempler le masque de sa honte. Alors, il tira le paravent et face à face se regarda. Oui, c'était vrai. Le portrait avait changé. Comme souvent, il se le rappela plus tard et toujours, non sans étonnement, il se trouva qu'il examinait le portrait avec un sentiment indéfinissable d'intérêt scientifique. Qu'un pareil changement fût arrivé, cela lui semblait impossible, et cependant cela était. Y avait-il quelques subtiles affinités entre les atomes chimiques mêlés en forme et en couleur sur la toile et l'âme qu'elle renfermait? Se pouvait-il qu'il l'eusse réalisé, ce que cette âme avait pensé, que ce qu'elle rêva, il l'eusse fait vrai? N'y avait-il dans cela quelque autre et terrible raison? Il frissonna, effrayé. Retournant vers le divan, il s'y laissa tomber, regardant hagard le portrait en frémissant d'horreur. Cette chose avait eu toutefois un effet sur lui. Il devenait conscient de son injustice et de sa cruauté envers Sibyl Vane. Il n'était pas trop tard pour réparer ses torts. Elle pouvait encore devenir sa femme. Son égoïste amour irréel céderait à quelque plus haute influence, se transformerait en une noble passion, et son portrait par Basil Hallward lui serait un guide à travers la vie, lui serait ce qu'est la sainteté à certains, la conscience à d'autres et la crainte de Dieu à tous. Il y a des opiums pour les remords, des narcotiques moraux pour l'esprit. Oui. Cela était un symbole visible de la dégradation qu'amenait le péché. C'était un signe avertisseur des désastres prochains que les hommes préparent à leur âme. 3 heures sonnèrent, puis 4. La demie tinta son double carillon. Dorian Gray ne bougeait pas. Il essayait de réunir les fils vermeils de sa vie et de les tresser ensemble. Il tentait de trouver son chemin à travers le labyrinthe d'ardentes passions dans lequel il errait. Il ne savait quoi faire, quoi penser. Enfin, il se dirigea vers la table et rédigea une lettre passionnée à la jeune fille qu'il avait aimée, implorant son pardon et s'accusant de démence. Il couvrit des pages de mots de chagrin furieux suivis de plus furieux cris de douleur. Il y a une sorte de volupté à se faire des reproches. Quand nous nous blâmons, nous pensons que personne autre n'a le droit de nous blâmer. C'est la confession, non le prêtre, qui nous donne l'absolution. Quand Dorian eut terminé sa lettre, il se sentit pardonné. On frappa tout à coup à la porte et il entendit en dehors la voix de Lord Henry. « Mon cher ami, il faut que je vous parle. Laissez-moi entrer, je ne puis supporter de vous voir ainsi barricadé. » Il ne répondit pas et resta sans faire aucun mouvement. On cogna de nouveau, puis très fort. Ne valait-il pas mieux laisser entrer Lord Henry et lui expliquer le nouveau genre de vie qu'il allait mener, se quereller avec lui si cela devenait nécessaire, le quitter si cette inévitable partie s'imposait ? Il se dressa, alla en hâte tirer le paravent sur le portrait et ôta le verrou de la porte.
« Je suis vraiment fâché de mon insistance, Dorian, » dit Lord Henry en entrant, « mais vous ne devez pas trop songer à cela. »
« À Sibyl Vane, voulez-vous dire ? » interrogea le jeune homme.
« Naturellement, » répondit Lord Henry, s'asseyant dans un fauteuil et retirant lentement ses gants jaunes. « C'est terrible, à un certain point de vue, mais ce n'est pas votre faute. Dites-moi, est-ce que vous êtes allé dans les coulisses après la pièce ?»«
Oui. » »«
J'en étais sûr. Vous lui fîtes une scène ?»«
Je fus brutal, Harry, parfaitement brutal. Mais c'est fini maintenant. Je ne suis pas fâché que cela soit arrivé. Cela m'a appris... à me mieux connaître.
Ah, Dorian, je suis content que vous preniez ça de cette façon. J'avais peur de vous voir plonger dans le remords et vous arrachant vos beaux cheveux bouclés.
Ah non, j'en ai fini, dit Dorian, secouant la tête en souriant. Je suis à présent parfaitement heureux. Je sais ce qu'est la conscience, pour commencer. Ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. C'est la plus divine chose qui soit en nous. Ne vous en moquez plus, Harry, au moins devant moi. J'ai besoin d'être bon. Je ne puis me faire à l'idée d'avoir une vilaine âme.
Une charmante base artistique pour la morale, Dorian. Je vous en félicite, mais par quoi allez-vous commencer ?
Mais par épouser Sibyl Vane.
Épouser Sibyl Vane ? S'écria Lord Henry, sursautant et le regardant avec un étonnement perplexe. Mais, mon cher Dorian !
Oui, Harry. Je sais ce que vous m'allez dire, un éreintement du mariage. Ne le développez pas. Ne me dites plus rien de nouveau là-dessus. J'ai offert il y a 2 jours à Sibyl Vane de l'épouser. Je ne veux point lui manquer de parole. Elle sera ma femme.
Votre femme, Dorian ? N'avez-vous donc pas reçu ma lettre ? Je vous ai écrit ce matin et vous ai fait tenir la lettre par mon domestique.
Votre lettre ? Ah, oui, je me souviens. Je ne l'ai pas encore lue, Harry. Je craignais d'y trouver quelque chose qui me ferait de la peine. « Vous m'empoisonnez la vie avec vos épigrammes. »«
Vous ne connaissez donc rien ?»«
Que voulez-vous dire ?» Lord Henry traversa la chambre et, s'asseyant à côté de Dorian Gray, lui prit les 2 mains dans les siennes et les lui serrant étroitement. « Dorian, lui dit-il, ma lettre, ne vous effrayez pas, vous informait de la mort de Sibyl Vane. »
Un cri de douleur jaillit des lèvres de l'adolescent. Il bondit sur ses pieds, s'arrachant de l'étreinte de Lord Henry.
« Morte ! Sibyl, morte ! Ce n'est pas vrai, c'est un horrible mensonge ! Comment osez-vous dire cela ?»«
C'est parfaitement vrai, Dorian, » dit gravement Lord Henry. « C'est dans les journaux de ce matin. Je vous écrivais pour vous dire de ne recevoir personne jusqu'à mon arrivée. Il y aura une enquête dans laquelle il ne faut pas que vous soyez mêlés. » Des choses comme celle-là mettent un homme à la mode à Paris, mais à Londres on a tant de préjugés. Ici, on ne débute jamais avec un scandale, on réserve cela pour donner un intérêt à ses vieux jours. J'aime à croire qu'on ne connaît pas votre nom au théâtre, s'il en est ainsi, tout va bien. Personne ne vous vit aux alentours de sa loge, ceci est de toute importance. »
Dorian ne répondit point pendant quelques instants, il était terrassé d'épouvante, il balbutia enfin d'une voix étouffée. « Harry !» « Vous parlez d'enquête ? Que voulez-vous dire ? Sibyl aurait-elle ? Oh, Harry, je ne veux pas y penser, mais parlez vite. Dites-moi tout. »«
Je n'ai aucun doute. Ce n'est pas un accident, Dorian, quoique le public puisse le croire. Il paraîtrait que, lorsqu'elle allait quitter le théâtre avec sa mère vers 00h30 environ, elle dit qu'elle avait oublié quelque chose chez elle. On l'attendit quelque temps, mais elle ne redescendait point. On monta. » Et on la trouva morte sur le plancher de sa loge. Elle avait avalé quelque chose par erreur, quelque chose de terrible dont on fait usage dans les théâtres. Je ne sais ce que c'était, mais il devait y avoir de l'acide prussique ou du blanc de céruse là-dedans. Je croirais volontiers à de l'acide prussique, car elle semble être morte instantanément.
« Harry, Harry, c'est horrible !» cria le jeune homme.
« Oui, c'est vraiment tragique, bien sûr. » Mais il ne faut pas que vous y soyez mêlés. J'ai vu dans le Standard qu'elle avait 17 ans. J'aurais cru qu'elle était plus jeune. Elle avait l'air d'une enfant et savait si peu jouer. Dorian, ne vous frappez pas. Venez dîner avec moi. Et après, nous irons à l'opéra. La Patti joue ce soir et tout le monde sera là. Vous viendrez dans la loge de ma sœur. Il s'y trouvera quelques jolies femmes.
Ainsi, j'ai tué Sibyl Vane, murmurait Dorian. Je l'ai tuée aussi sûrement que si j'avais coupé sa petite gorge avec un couteau. Et cependant, les roses pour cela n'en sont pas moins belles, les oiseaux n'en chanteront pas moins dans mon jardin. Et ce soir, je vais aller dîner avec vous. J'irai de là à l'opéra et sans doute j'irai souper quelque part ensuite. Combien la vie est puissamment dramatique. Si j'avais lu cela dans un livre, Harry, je pense que j'en aurais pleuré. Maintenant que cela arrive, et à moi, cela me semble beaucoup trop stupéfiant pour en pleurer. Tenez, voici la première lettre d'amour passionné que j'ai jamais écrite de ma vie. Ne trouvez-vous pas étrange que cette première lettre d'amour soit adressée à une fille morte? Peuvent-ils sentir ces êtres blancs et silencieux que nous appelons les morts? Sibyl, peut-elle sentir, savoir, écouter? Oh, Harry, comme je l'aimais! Il me semble qu'il y a des années, elle m'était tout. Vint cet affreux soir, était-ce la nuit dernière, où elle joua si mal et mon cœur se brisa? Elle m'expliqua pourquoi. Ce fut horriblement touchant. Je ne fus pas émue. Je la croyais sotte. Quelque chose arriva soudain qui m'épouvanta. Je ne puis vous dire ce que ce fut, mais ce fut terrible. Je voulus retourner à elle. Je sentis que je m'étais mal conduit. Et maintenant, elle est morte. Mon Dieu, Harry, que dois-je faire? Vous savez dans quel danger je suis, et rien n'est là pour m'en garder. Elle aurait fait cela pour moi. Elle n'avait point le droit de se tuer. Ce fut égoïste de sa part.
Mon cher Dorian, répondit Lord Henry, prenant une cigarette et tirant de sa poche une boîte d'allumettes dorées. La seule manière dont une femme puisse réformer un homme est de l'importuner de telle sorte qu'il perde tout intérêt possible à l'existence. Si vous aviez épousé cette jeune fille, vous auriez été malheureux, vous l'auriez traitée gentiment, on peut toujours être bon envers les personnes desquelles on n'attend rien, mais elle aurait bientôt découvert que vous lui étiez absolument indifférent, et quand une femme a découvert cela de son mari, ou elle se fagote terriblement, ou bien elle porte de pimpants chapeaux que paie le mari d'une autre femme. Je ne dis rien de l'adultère qui aurait pu être abject, qu'en somme je n'aurais pas permis, mais je vous assure, dans tous les cas, que tout cela eût été un parfait désastre.
« C'est possible, » murmura le jeune homme horriblement pâle en marchant de long en large dans la chambre. « Mais je pensais que cela était de mon devoir. Ce n'est point ma faute si ce drame m'a empêché de faire ce que je croyais juste. Je me souviens que vous m'avez dit une fois qu'il pesait une fatalité sur les bonnes résolutions, qu'on les prenait toujours trop tard. La mienne en est un exemple.
Les bonnes résolutions ne peuvent qu'inutilement intervenir contre les lois scientifiques. Leur origine est de pure vanité et leur résultat est nil. De temps à autre, elles nous donnent quelques luxueuses émotions stériles qui possèdent pour les faibles un certain charme. Voilà ce que l'on peut en déduire. On peut les comparer à des chèques qu'un homme tirerait sur une banque où il n'aurait point de compte ouvert.
« Harry !» s'écria Dorian Gray venant s'asseoir près de lui. « Pourquoi est-ce que je ne puis sentir cette tragédie comme je voudrais le faire? Je ne suis pas sans cœur, n'est-ce pas ?»«
Vous avez fait trop de folie durant la dernière quinzaine pour qu'il vous soit permis de vous croire ainsi, Dorian, » répondit Lord Henry avec son doux et mélancolique sourire. Le jeune homme fronça les sourcils. « Je n'aime point cette explication, Harry, » reprit-il, « mais cela me fait plaisir d'apprendre que vous ne me croyez pas sans cœur. »
Je ne le suis vraiment pas, je le sais, et cependant je me rends compte que je ne suis pas affectée par cette chose comme je le devrais être. Elle me semble simplement être le merveilleux épilogue d'un merveilleux drame. Cela a toute la beauté terrible d'une tragédie grecque, une tragédie dans laquelle j'ai pris une grande part, mais dans laquelle je ne fus point blessée.
Oui, en vérité, c'est une question intéressante, dit Lord Henry, qui trouvait un plaisir exquis à jouer sur l'égoïsme inconscient de l'adolescent.
Une question extrêmement intéressante. Je m'imagine que la seule explication en est celle-ci. Il arrive souvent que les véritables tragédies de la vie se passent d'une manière si peu artistique qu'elles nous blessent par leur violence crue, leur incohérence absolue, leur absurde besoin de signifier quelque chose, leur entier manque de style.
Elles nous affectent tout ainsi que la vulgarité. Elles nous donnent une impression de la pure force brutale et nous nous révoltons contre cela. Parfois, cependant,
Une tragédie possédant des éléments artistiques de beauté traverse notre vie. Si ces éléments de beauté sont réels, elle en appelle à nos sens de l'effet dramatique. Nous nous trouvons tout à coup, non plus les acteurs, mais les spectateurs de la pièce, ou plutôt, nous sommes les deux. Nous nous surveillons nous-mêmes, et le simple intérêt du spectacle nous séduit. Qu'est-il réellement arrivé dans le cas qui nous occupe ? Une femme s'est tuée par amour pour vous. Je suis ravie que pareille chose ne me soit jamais arrivée. Cela m'aurait fait aimer l'amour pour le restant de mes jours. Les femmes qui m'ont adorée, elles n'ont pas été nombreuses, mais il y en a eu. On voulut continuer alors que depuis longtemps j'avais cessé d'y prêter attention, ou elles de faire attention à moi. Elles sont devenues grasses et assommantes, et quand je les rencontre, elles entament le chapitre des réminiscences. Oh, la terrible mémoire des femmes, quelle chose effrayante, quelle parfaite stagnation intellectuelle cela révèle. On peut garder dans sa mémoire la couleur de la vie, mais on ne peut se souvenir des détails toujours vulgaires. Je sèmerai des pavots dans mon jardin, soupira Dorian. Je n'en vois pas la nécessité, répliqua son compagnon. La vie a toujours des pavots dans les mains. Certes, de temps à autre, les choses durent. Une fois, je ne portais que des violettes toute une saison, comme manière artistique de porter le deuil d'une passion qui ne voulait mourir. Enfin, elle mourut. Je ne sais ce qui la tua. Je pense que ce fut la proposition de sacrifier le monde entier pour moi. C'est toujours un moment ennuyeux. Cela vous remplit de la terreur de l'éternité. Eh bien, le croyez-vous ? Il y a une semaine, je me trouvais chez Lady Hampshire, assis au dîner près de la dame en question, et elle insista pour recommencer de nouveau en déblayant le passé et ratissant le futur. J'avais enterré mon roman dans un lit d'asphodèle, elle prétendait l'exhumer et m'assurait que je n'avais pas gâté sa vie. Je suis autorisé à croire qu'elle mangea énormément, aussi ne ressentis-je aucune anxiété. Mais quel manque de goût elle montra ! Le seul charme du passé est que c'est le passé, et les femmes ne savent jamais quand la toile est tombée. Elles réclament toujours un sixième acte et proposent de continuer le spectacle quand l'intérêt s'en est allé. Si on leur permettait d'en faire à leur gré, toute comédie aurait une fin tragique et toute tragédie finirait en farce. Elles sont délicieusement artificielles, mais elles n'ont aucun sens de l'art. Vous êtes plus heureux que moi. Je vous assure, Dorian, qu'aucune des femmes que j'ai connues n'aurait fait pour moi ce que Sybil Vane a fait pour vous. Les femmes ordinaires se consolent toujours, quelques-unes en portant des couleurs sentimentales. Ne placez jamais votre confiance en une femme qui porte du mauve, quel que soit son âge, ou dans une femme de 35 ans affectionnant les rubans roses. Cela veut toujours dire qu'elles ont une histoire. D'autres trouvent une grande consolation à la découverte inopinée des bonnes qualités de leur mari. Elles font parade de leur félicité conjugale comme si c'était le plus fascinant des péchés. La religion en console d'autres encore. « Ces mystères ont tout le charme d'un flirt, » me dit un jour une femme, « et je puis le comprendre. En plus, rien ne vous fait si vain que de vous dire que vous êtes un pécheur. La conscience fait de nous des égoïstes. Oui, il n'y a réellement pas de fin aux consolations que les femmes trouvent dans la vie moderne, et je n'ai point encore mentionné la plus importante. « Quelle est-elle, Harry ?» demanda indifféremment le jeune homme. « La consolation évidente, prendre un nouvel adorateur quand on en perd un. Dans la bonne société, cela vous rajeunit toujours une femme. Mais réellement, Dorian, combien Sybil Vane devait être dissemblable des femmes que nous rencontrons. Il y a quelque chose d'absolument beau dans sa mort. Je suis heureux de vivre dans un siècle où de pareils miracles se produisent. Ils nous font croire à la réalité des choses avec lesquelles nous jouons, comme le roman, la passion, l'amour. Je fus bien cruelle envers elle, vous l'oubliez. Je suis certain que les femmes apprécient la cruauté, la vraie cruauté, plus que n'importe quoi. Elles ont d'admirables instincts primitifs. Nous les avons émancipées, mais elles n'en sont pas moins restées des esclaves cherchant leur maître. Elles aiment être dominées. Je suis sûre que vous fûtes splendide. Je ne vous ai jamais vue dans une véritable colère, mais je m'imagine combien vous devez être charmant. Et d'ailleurs, vous m'avez dit quelque chose avant-hier qui me parut alors quelque peu fantaisiste, mais que je sens maintenant parfaitement vrai et qui me donne la clé de tout. Qu'était-ce, Harry ? Vous m'avez dit que Sybil Vane vous représentait toutes les héroïnes de romans, qu'elle était un soir Desdémone et un autre Ophélie, qu'elle mourait comme Juliette et ressuscitait comme Imogène.
« Elle ne ressuscitera plus jamais maintenant, » dit le jeune homme, la face dans ses mains.
« Non, Elle ne ressuscitera plus. Elle a joué son dernier rôle, mais il vous faut penser à cette mort solitaire dans cette loge clinquante, comme si c'était un étrange fragment lugubre de quelque tragédie jacobine, comme à une scène surprenante de Webster, de Ford ou de Cyril Tourneur. Cette jeune fille n'a jamais vécu, en réalité, et elle n'est jamais morte. Elle vous fut toujours comme un songe, comme ce fantôme qui apparaît dans les drames de Shakespeare, les rendant plus adorables par sa présence, comme un roseau à travers lequel passe la musique de Shakespeare, enrichie de joie et de sonorité. Elle gâta sa vie au moment où elle y entra, et la vie la gâta. Elle en mourut. Pleurez pour Ophélie si vous voulez, couvrez-vous le front de cendres parce que Cordélia a été étranglée, invectivez le ciel parce que la fille de Brabantio est trépassée, mais ne gaspillez pas vos larmes sur le cadavre de Sibyl Vane. Celle-ci était moins réelle que celle-là. » Un silence suivit. Le crépuscule assombrissait la chambre. Sans bruit, à pas de velours, les ombres se glissaient dans le jardin. Les couleurs des objets s'évanouissaient paresseusement. Après quelques minutes, Dorian Gray releva la tête. « Vous m'avez expliqué à moi-même, Harry, » murmura-t-il avec un soupir de soulagement. Je sentais tout ce que vous m'avez dit, mais, en quelque sorte, j'en étais effrayée, et je n'osais me l'exprimer à moi-même. Comme vous me connaissez bien. Mais nous ne parlerons plus de ce qui est arrivé. Ce fut une merveilleuse expérience, c'est tout. Je ne crois pas que la vie me réserve encore quelque chose d'aussi merveilleux. La vie a tout en réserve pour vous, Dorian. Il n'est rien, avec votre extraordinaire beauté, que vous ne soyez capable de faire. Mais songez, Harry, que je deviendrai grotesque, vieux, ridé. Alors, reprit Lord Henry en se levant, alors, mon cher Dorian, vous aurez à combattre pour vos victoires. Actuellement, elles vous sont à portée. Il faut que vous gardiez votre beauté. Nous vivons dans un siècle qui lit trop pour être sage et qui pense trop pour être beau. Nous ne pouvons nous passer de vous. Maintenant, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'aller vous habiller et de descendre au club. Nous sommes plutôt en retard, comme vous le voyez. Je pense que je vous rejoindrai à l'opéra, Harry. Je suis trop fatiguée pour manger quoi que ce soit. Quel est le numéro de la loge de votre sœur ?
27, je crois. C'est au premier rang. Vous verrez son nom sur la porte. Je suis désolée que vous ne veniez dîner.
Ça ne m'est point possible, dit Dorian nonchalamment. Je vous suis bien obligée pour tout ce que vous m'avez dit. Vous êtes certainement mon meilleur ami. Personne ne m'a compris comme vous.
Nous sommes seulement au commencement de notre amitié, Dorian, répondit Lord Henry en lui serrant la main. Adieu, je vous verrai avant 9h30, j'espère. Souvenez-vous que la Patty chante. Comme il fermait la porte derrière lui, Dorian Gray sonna, et au bout d'un instant, Victor apparut avec les lampes et tira les jalousies. Dorian s'impatientait, voulant déjà être parti, et il lui semblait que Victor n'en finissait pas. Aussitôt qu'il fut sorti, il se précipita vers le paravent et découvrit la peinture. Non, rien n'était changé de nouveau dans le portrait. Il avait su la mort de Sibyl Vane avant lui. Il savait les événements de la vie alors qu'ils arrivaient. La cruauté méchante qui gâtait les fines lignes de la bouche avait apparu sans doute au moment même où la jeune fille avait bu le poison. Ou bien était-il indifférent aux événements? Connaissait-il simplement ce qui se passait dans l'âme? Il s'étonnait, espérant que quelque jour il verrait le changement se produire devant ses yeux, et cette pensée le fit frémir. Pauvre Sibyl, quel roman cela avait été! Elle avait souvent mimé la mort au théâtre. La mort l'avait touchée et prise avec elle. Comment avait-elle joué cette ultime scène terrifiante? L'avait-elle maudit en mourant? Non, elle était morte par amour pour lui, et l'amour désormais lui serait un sacrement. Elle avait tout racheté par le sacrifice qu'elle avait fait de sa vie. Il ne voulait plus songer à ce qu'elle lui avait fait éprouver pendant cette terrible soirée au théâtre. Quand il penserait à elle, ce serait comme à une prestigieuse figure tragique envoyée sur la scène du monde pour y montrer la réalité suprême de l'amour. Une prestigieuse figure tragique. Des larmes lui montèrent aux yeux en se souvenant de son air enfantin, de ses manières douces et capricieuses, de sa farouche et tremblante grâce. Il les refoula en hâte et regarda de nouveau le portrait. Il sentit que le temps était venu, cette fois, de faire son choix. Son choix n'avait-il été déjà fait? Oui, la vie avait décidé pour lui, la vie et aussi l'âpre curiosité qu'il en avait. L'éternelle jeunesse, l'infinie passion, les plaisirs subtils et secrets, les joies ardentes et les péchés plus ardents encore, toutes ces choses il devait les connaître.
Le portrait assumerait le poids de sa honte. Voilà tout. Une sensation de douleur le poignit en pensant à la désagrégation que subirait sa belle face peinte sur la toile. Une fois, moquerie gamine de Narcisse, il avait baisé ou feint de baiser ses lèvres peintes qui maintenant lui souriaient si cruellement. Des jours et des jours, il s'était assis devant son portrait, s'émerveillant de sa beauté, presque en amoureux d'elle, comme il lui sembla maintes fois. Devait-elle s'altérer à présent à chaque péché auquel il céderait? Cela deviendrait-il un monstrueux et dégoûtant objet à cacher dans quelque chambre cadenassée, loin de la lumière du soleil qui avait si souvent léché l'or éclatant de sa chevelure ondée? Quelle dérision sans mesure! Un instant, il songea à prier pour que cessât l'horrible sympathie existant entre lui et le portrait. Une prière l'avait faite, peut-être une prière le pouvait-elle détruire? Cependant, qui, connaissant la vie, hésiterait pour garder la chance de rester toujours jeune? Quelque fantastique que cette chance pût paraître, à tenter les conséquences que ce choix pouvait entraîner? D'ailleurs, cela dépendait-il de sa volonté? Était-ce vraiment la prière qui avait produit cette substitution? Quelque raison scientifique ne pouvait-elle l'expliquer? Si la pensée pouvait exercer une influence sur un organisme vivant, cette influence ne pouvait-elle s'exercer sur les choses mortes ou inorganiques? Ne pouvait-elle, les choses extérieures à nous-mêmes, sans pensée ou désir conscient, vibrer à l'unisson de nos humeurs ou de nos passions, l'atome appelant l'atome dans un amour secret ou une étrange affinité? Mais la raison était sans importance. Il ne tenterait plus par la prière un si terrible pouvoir. Si la peinture devait s'altérer, rien ne pouvait l'empêcher. C'était clair. Pourquoi approfondir cela? Car il y aurait un véritable plaisir à guetter ce changement. Il pourrait suivre son esprit dans ses pensées secrètes. Ce portrait lui serait le plus magnifique des miroirs. Comme il lui avait révélé son propre corps, il lui révélerait sa propre âme. Et quand l'hiver de la vie viendrait sur le portrait, lui resterait sur la lisière frissonnante du printemps et de l'été. Quand le sang lui viendrait à la face, laissant derrière un masque pallide de craie aux yeux plombés, il garderait la splendeur de l'adolescence. Aucune floraison de sa jeunesse ne se flétrirait, le pouls de sa vie ne s'affaiblirait point. Comme les dieux de la Grèce, il serait fort et léger et joyeux. Que pouvait lui faire ce qui arriverait à l'image peinte sur la toile? Il serait sauf. Tout était là. Souriant, il replaça le paravent dans la position qu'il occupait devant le portrait et passa dans la chambre où l'attendait son valet. Une heure plus tard, il était à l'opéra et Lord Henry s'appuyait sur le dos de son fauteuil. Fin du chapitre 8, enregistré par Pauline Latournerie.
Chapitre 9 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 9. Le lendemain matin, tandis qu'il déjeunait, Basil Hallward entra. « Je suis bien heureux de vous trouver, Dorian, » dit-il gravement. « Je suis venu hier soir et on m'a dit que vous étiez à l'opéra. Je savais que c'était impossible, mais j'aurais voulu que vous m'eussiez laissé un mot me disant où vous étiez allé. J'ai passé une bien triste soirée, craignant qu'une première tragédie ne soit suivie d'une autre. Vous auriez dû me télégraphier dès que vous en avez entendu parler. Je l'ai lu par hasard dans la dernière édition du Globe au club. » Je vins aussitôt ici et je fus vraiment désolée de ne pas vous trouver. Je ne saurais vous dire combien j'ai eu le cœur brisé par tout cela. Je sais ce que vous devez souffrir. Mais où étiez-vous? Êtes-vous allé voir la mère de la pauvre fille? Un instant, j'avais songé à vous y chercher. On avait mis l'adresse dans le journal. Quelque part dans Stone Road, n'est-ce pas? Mais j'eus peur d'importuner une douleur que je ne pouvais consoler. Pauvre femme! Dans quel état elle devait être? Son unique enfant! Que disait-elle? « Mon cher Basil, que sais-je ? » murmura Dorian Gray, buvant à petits coups d'un vin jaune pâle dans un verre de Venise, délicatement contourné et doré, et paraissant profondément ennuyé. « J'étais à l'opéra. Vous auriez dû y venir. J'ai rencontré pour la première fois Lady Gwendoline, la sœur d'Harry. Nous étions dans sa loge. Elle est tout à fait charmante, et la Patty a chanté divinement. Ne parlez pas de choses horribles. Si l'on ne parlait jamais d'une chose, ce serait comme si elle n'était jamais arrivée. C'est seulement l'expression, comme dit Harry, qui donne une réalité aux choses. Je dois dire que ce n'était pas l'unique enfant de la pauvre femme. Il y a un fils, un charmant garçon, je crois. Mais il n'est pas au théâtre. C'est un marin ou quelque chose comme cela. Et maintenant, parlez-moi de vous et de ce que vous êtes en train de peindre. Vous avez été à l'opéra ? Dit lentement Hallward, avec une vibration de tristesse dans la voix. Vous avez été à l'opéra pendant que Sibyl Vane reposait dans la mort en un sordide logis ? Vous pouvez me parler d'autres femmes charmantes et de la Patty qui chantait divinement avant que la jeune fille que vous aimiez ait même la quiétude d'un tombeau pour y dormir. Vous ne songez donc pas aux horreurs réservées à ce petit corps lilial ? Arrêtez-vous, Basil. Je ne veux pas les entendre, s'écria Dorian en se levant. Ne me parlez pas de ces choses. Ce qui est fait est fait. Le passé est le passé. Vous appelez hier le passé ? Ce qui se passe dans l'instant actuel va lui appartenir. Il n'y a que les gens superficiels qui veulent des années pour s'affranchir d'une émotion. Un homme, maître de lui-même, peut mettre fin à un chagrin aussi facilement qu'il peut inventer un plaisir. Je ne veux pas être à la merci de mes émotions. Je veux en user, les rendre agréables et les dominer. Dorian, ceci est horrible. Quelque chose vous a changé complètement. Vous avez toujours les apparences de ce merveilleux jeune homme qui venait chaque jour à mon atelier poser pour son portrait. Mais alors vous étiez simple, naturel et tendre. Vous étiez la moins souillée des créatures. Maintenant, je ne sais ce qui a passé sur vous. Vous parlez comme si vous n'aviez ni cœur ni pitié. C'est l'influence d'Harry qui a fait cela, je le vois bien. » Le jeune homme rougit et, allant à la fenêtre, resta quelques instants à considérer la pelouse fleurie et ensoleillée. « Je dois beaucoup à Harry, Basil, » dit-il enfin. « Plus que je ne vous dois. Vous ne m'avez appris qu'à être vain. »« Parfait. Aussi en suis-je puni, Dorian, ou le serai-je quelques jours ?» « Je ne sais ce que vous voulez dire, Basil, » s'écria-t-il en se retournant. « Je ne sais ce que vous voulez. Que voulez-vous ? Je voudrais retrouver le Dorian Gray que j'ai peint, » dit l'artiste tristement. « Basil, » dit l'adolescent, allant à lui et lui mettant la main sur l'épaule, « vous êtes venu trop tard. Hier, lorsque j'ai appris que Sibyl Vane s'était suicidée, suicidée ? Mon Dieu, est-ce bien certain ?» s'écria Hallward, le regardant avec une expression d'horreur. « Mon cher Basil, vous ne pensiez sûrement pas que ce fût un vulgaire accident. Certainement, elle s'est suicidée. » L'autre enfonça sa tête dans ses mains. « C'est effrayant, » murmura-t-il, tandis qu'un frisson le parcourait. « Non, » dit Dorian Gray, « cela n'a rien d'effrayant. C'est une des plus grandes tragédies romantiques de notre temps. À l'ordinaire, les acteurs ont l'existence la plus banale. Ils sont bons maris, femmes fidèles, quelque chose d'ennuyeux. Vous comprenez, une vertu moyenne. Et tout ce qui s'ensuit. Comme Sibyl était différente. Elle a vécu sa plus belle tragédie. Elle fut constamment une héroïne. La dernière nuit qu'elle joua, la nuit où vous la vîtes, elle joua mal, parce qu'elle avait compris la réalité de l'amour. Quand elle connut ses déceptions, elle mourut comme Juliette eût pu mourir. Elle traversa de nouveau les sphères de l'art. Elle a quelque chose d'une martyre. Sa mort a toute l'inutilité pathétique du martyr, toute une beauté de désolation. Mais, comme je vous le disais, ne croyez pas que je n'ai pas souffert. Si vous étiez venu hier, à un certain moment, vers 5h30 peut-être, ou 6h moins le quart, vous m'auriez trouvé en larmes. Même Harry, qui était ici et qui, au fait, m'apporta la nouvelle, se demandait où j'allais en venir. Je souffris intensément. Puis cela passa. Je ne puis répéter une émotion. Personne, d'ailleurs, ne le peut, excepté les sentimentaux. Et vous êtes cruellement injuste, Basil. Vous venez ici pour me consoler, ce qui est charmant de votre part. Vous me trouvez tout consolé et vous êtes furieux. Tout comme une personne sympathique. Vous me rappelez une histoire qu'Harry m'a racontée à propos d'un certain philanthrope qui dépensa 20 ans de sa vie à essayer de redresser quelque tort ou de modifier une loi injuste, je ne sais plus exactement. Enfin, il y réussit et rien ne put surpasser son désespoir. Il n'avait absolument plus rien à faire, sinon à mourir d'ennui et il devint un misanthrope résolu. Maintenant, mon cher Basil, si vraiment vous voulez me consoler, apprenez-moi à oublier ce qui est arrivé, ou à le considérer à un point de vue assez artistique. N'est-ce pas Gautier qui écrivit sur la consolation des arts? Je me rappelle avoir trouvé un jour dans votre atelier un petit volume relié en vélin où je cueillis ce mot délicieux. Encore ne suis-je pas comme ce jeune homme dont vous me parliez lorsque nous fûmes ensemble à Marlowe, ce jeune homme qui disait que le satin jaune pouvait nous consoler de toutes les misères de l'existence. J'aime les belles choses que l'on peut toucher et tenir, les vieux brocarts, les bronzes verts, les lacs, les ivoires exquisement travaillés, ornés, parés. Il y a beaucoup à tirer de ces choses. Mais le tempérament artistique qu'elle crée ou du moins révèle est plus encore pour moi. Devenir le spectateur de sa propre vie, comme dit Harry, c'est échapper aux souffrances terrestres. Je sais bien que je vous étonne en parlant ainsi. Vous n'avez pas compris comment je me suis développée. J'étais un écolier lorsque vous me connûtes. Je suis un homme maintenant. J'ai de nouvelles passions, de nouvelles pensées, des idées nouvelles. Je suis différent. Mais vous ne devez pas m'en aimer moins. Je suis changée. Mais vous serez toujours mon ami. Certes, j'aime beaucoup Harry. Je sais bien que vous êtes meilleur que lui. Vous n'êtes pas plus fort. Vous avez trop peur de la vie, mais vous êtes meilleur. Comme nous étions heureux ensemble. Ne m'abandonnez pas, Basil, et ne me querellez pas. Je suis ce que je suis. Il n'y a rien de plus à dire. Le peintre semblait singulièrement ému. Le jeune homme lui était très cher. Et sa personnalité avait marqué le tournant de son art. Il ne put supporter l'idée de lui faire plus longtemps des reproches. Après tout, son indifférence pouvait n'être qu'une humeur passagère. Il y avait en lui tant de bonté et tant de noblesse. « Bien, Dorian, » dit-il enfin, avec un sourire attristé, « je ne vous parlerai plus de cette horrible affaire désormais. J'espère seulement que votre nom n'y sera pas mêlé. L'enquête doit avoir lieu cet après-midi. Vous a-t-on convoqué ? » Dorian secoua la tête et une expression d'ennui passa sur ses traits à ce mot d'enquête. Il y avait dans ce mot quelque chose de si brutal et de si vulgaire. « Ils ne connaissent pas mon nom, » répondit-il. « Mais elle le connaissait certainement. Mon prénom seulement. Et je suis certain qu'elle ne l'a jamais dit à personne. Elle m'a dit une fois qu'ils étaient tous très curieux de savoir qui j'étais. » Et qu'elle leur répondait invariablement que je m'appelais le prince charmant. C'était gentil de sa part. Il faudra que vous m'affassiez un croquis de Sibylle, Basil. Je voudrais avoir d'elle quelque chose de plus que le souvenir de quelques baisers et de quelques lambeaux de phrases pathétiques. J'essaierai de faire quelque chose, Dorian, si cela vous fait plaisir. Mais il faudra que vous veniez encore me poser. Je ne puis me passer de vous. Je ne peux plus poser pour vous, Basil. « C'est tout à fait impossible !» s'écria-t-il en se reculant. Le peintre le regarda en face. « Mon cher enfant, quelle bêtise ! Voudriez-vous dire que ce que j'ai fait de vous ne vous plaît pas ? Où est-ce à propos ? Pourquoi avez-vous poussé le paravent devant votre portrait ? Laissez-moi le regarder. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. « Ôtez ce paravent, Dorian. C'est vraiment désobligeant de la part de votre domestique de cacher ainsi mon œuvre. Il me semblait que quelque chose était changé ici quand je suis entrée. Mon domestique n'y est pour rien, Basil. Vous n'imaginez pas que je lui laisse arranger mon appartement. Il dispose mes fleurs, quelquefois, et c'est tout. Non, j'ai fait cela moi-même. » La lumière tombait trop crûment sur le portrait. « Trop crûment ? Mais pas du tout, cher ami. » L'exposition est admirable. Laissez-moi voir. » et Hallward se dirigea vers le coin de la pièce. Un cri de terreur s'échappa des lèvres de Dorian Gray. Il s'élança entre le peintre et le paravent. « Basil, dit-il en pâlissant, vous ne regarderez pas cela, je ne le veux pas. »« Ne pas regarder ma propre œuvre ? Vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi ne la regarderais-je pas ? S'exclama Hallward en riant. « Si vous essayez de la voir, Basil, je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous parlerai plus de toute ma vie. Je suis tout à fait sérieux. Je ne vous offre aucune explication et il ne faut pas m'en demander. Mais songez-y, si vous touchez auparavant, tout est fini entre nous. » Hallward était comme foudroyé. Il ne l'avait jamais vu ainsi. Le jeune homme était blême de colère. Ses mains se crispaient et les pupilles de ses yeux semblaient deux flammes bleues. Un tremblement le parcourait. « Dorian, ne parlez pas. »« Mais qu'y a-t-il ? » ? « Certainement, je ne le regarderai pas si vous ne le voulez pas, » dit-il un peu froidement, tournant sur ses talons et allant vers la fenêtre. Mais il me semble plutôt absurde que je ne puisse voir mon œuvre, surtout lorsque je vais l'exposer à Paris cet automne. Il faudra sans doute que je lui donne une nouvelle couche de vernis d'ici là. Ainsi devrais-je la voir quelques jours. Pourquoi pas maintenant ? L'exposer ? Vous voulez l'exposer ? S'exclama Dorian Gray, envahi d'un étrange effroi. Le monde verrait donc son secret ? On viendrait bâiller devant le mystère de sa vie ? Cela était impossible. Quelque chose, il ne savait quoi, se passerait avant. Oui, je ne suppose pas que vous ayez quelque chose à objecter. Georges Petit va réunir mes meilleures toiles pour une exposition spéciale qui ouvrira rue de Sèze dans la première semaine d'octobre. Le portrait ne sera hors d'ici que pour un mois. Je pense que vous pouvez facilement vous en séparer ce laps de temps. D'ailleurs, vous serez sûrement absent de la ville, et si vous le laissez toujours derrière un paravent, vous n'avez guère à vous en soucier. » Dorian passa sa main sur son front emperlé de sueur. Il lui semblait qu'il courait un horrible danger. « Vous m'avez dit, il y a un mois, que vous ne l'exposeriez jamais, » s'écria-t-il. « Pourquoi avez-vous changé d'avis ? Vous autres qui passez pour constants, vous avez autant de caprices que les autres. La seule différence, c'est que vos caprices sont sans aucune signification. Vous ne pouvez avoir oublié que vous m'avez solennellement assuré que rien au monde ne pourrait vous amener à l'exposer. Vous avez dit exactement la même chose à Harry. » Il s'arrêta soudain. Un éclair passa dans ses yeux. Il se souvint que Lord Henry lui avait dit un jour, moitié sérieusement, moitié en riant, « Si vous voulez passer un curieux quart d'heure, demandez à Basil pourquoi il ne veut pas exposer votre portrait. » Il me l'a dit et cela a été pour moi une révélation. Oui, Basil aussi, peut-être avait son secret. Il essaierait de le connaître. « Basil, dit-il en se rapprochant tout contre lui et le regardant droit dans les yeux, « nous avons chacun un secret. » Faites-moi connaître le vôtre, je vous dirai le mien. Pour quelle raison refusiez-vous d'exposer mon portrait ? » Le peintre frissonna malgré lui. « Dorian, si je vous le disais, vous pourriez m'en aimer moins et vous ririez sûrement de moi. Je ne pourrais supporter ni l'une ni l'autre de ces choses. Si vous voulez que je ne regarde plus votre portrait, c'est bien. Je pourrais du moins toujours vous regarder, vous. Si vous voulez que la meilleure de mes œuvres soit à jamais cachée au monde, j'accepte. Votre amitié m'est plus chère que toute gloire ou toute renommée. » « Non, Basil, il faut me le dire, » insista Dorian Gray, « je crois avoir le droit de le savoir. » Son impression de terreur avait disparu et la curiosité l'avait remplacée. Il était résolu à connaître le secret de Basil Hallward. « Asseyons-nous, Dorian, » dit le peintre troublé, « asseyons-nous. Et répondez à ma question. Avez-vous remarqué dans le portrait une chose curieuse, une chose qui probablement ne vous a pas frappé tout d'abord, mais qui s'est révélée à vous soudainement ? Basil, s'écria le jeune homme, étreignant le bras de son fauteuil, de ses mains tremblantes, et le regardant avec des yeux ardents et effrayés. Je vois que vous l'avez remarqué. Ne parlez pas. Attendez d'avoir entendu ce que j'ai à dire. « Dorian, du jour où je vous rencontrai, votre personnalité eut sur moi une influence extraordinaire. Je fus dominé, âme, cerveau et talent par vous. Vous deveniez pour moi la visible incarnation de cet idéal jamais vu, dont la pensée nous hante, nous autres artistes, comme un rêve exquis. Je vous aimais. Je devins jaloux de tous ceux à qui vous parliez. Je voulais vous avoir, à moi seul. Je n'étais heureux que lorsque j'étais avec vous. Quand vous étiez loin de moi, vous étiez encore présent dans mon art. Certes, je ne vous laissais jamais rien connaître de tout cela. C'eût été impossible. Vous n'auriez pas compris. Je le comprends à peine moi-même. Je connus seulement que j'avais vu la perfection face à face et le monde devint merveilleux à mes yeux. Trop merveilleux peut-être, car il y a un péril dans de telles adorations. Le péril de les perdre, non moindre que celui de les conserver. Les semaines passaient et je m'absorbais en vous de plus en plus. Alors commença une phase nouvelle. Je vous avais dessiné en berger Paris, revêtu d'une délicate armure, en Adonis armé d'un épieu poli et en costume de chasseur. Couronné de lourdes fleurs de lotus, vous aviez posé sur la proue de la trirème d'Adrien, regardant au-delà du Nil vert et bourbeux. Vous vous étiez penché sur l'étang limpide d'un paysage grec, mirant dans l'argent des eaux silencieuses la merveille de votre propre visage. Et tout cela avait été ce que l'art pouvait être, de l'inconscience, de l'idéal, de l'à-peu-près. Un jour, jour fatal auquel je pense quelquefois, je résolus de peindre un splendide portrait de vous, tel que vous êtes maintenant, non dans les costumes des temps révolus, mais dans vos propres vêtements et dans votre époque. Fût-ce le réalisme du sujet ou la simple idée de votre propre personnalité se présentant ainsi à moi, sans entour et sans voile, je ne puis le dire. Mais je sais que pendant que j'y travaillais, chaque coup de pinceau, chaque touche de couleur me semblait révéler mon secret. Je m'effrayais que chacun pût connaître mon idolâtrerie. Je sentis, Dorian, que j'avais trop dit, mis trop de moi-même dans cette œuvre. C'est alors que je résolus de ne jamais permettre que ce portrait fût exposé. Vous en fûtes un peu ennuyé, mais alors vous ne vous rendiez pas compte de tout ce que cela signifiait pour moi. Harry, à qui j'en parlais, se moqua de moi. Je ne m'en souciais pas. Quand le tableau fut terminé et que je m'assis tout seul en face de lui, je sentis que j'avais raison. Mais quelques jours après qu'il eut quitté mon atelier, dès que je fus débarrassé de l'intolérable fascination de sa présence, il me sembla que j'avais été fou en imaginant y avoir vu autre chose que votre beauté et plus de choses que je n'en pouvais peindre. Et même maintenant, je ne puis m'empêcher de sentir l'erreur qu'il y a à croire que la passion éprouvée dans la création puisse jamais se montrer dans l'œuvre créée. L'art est toujours plus abstrait que nous ne l'imaginons. La forme et la couleur nous parlent de forme et de couleur. Voilà tout. Il me semble souvent que l'œuvre cache l'artiste bien plus qu'elle ne le révèle. Aussi, lorsque je reçus cette offre de Paris, je résolus de faire de votre portrait le clou de mon exposition. Je ne soupçonnais jamais que vous pourriez me le refuser. Je vois maintenant que vous aviez raison. Ce portrait ne peut être montré. Il ne faut pas m'en vouloir, Dorian, de tout ce que je viens de vous dire. Comme je le disais une fois, Harry, vous êtes fait pour être aimé. Dorian Gray poussa un long soupir. Ses joues se colorèrent de nouveau et un sourire se joua sur ses lèvres. Le péril était passé. Il était sauvé, pour l'instant. Il ne pouvait toutefois se défendre d'une infinie pitié pour le peintre qui venait de lui faire une si étrange confession. Et il se demandait si lui-même pourrait jamais être ainsi dominé par la personnalité d'un ami. Lord Henry avait ce charme d'être très dangereux, mais c'était tout. Il était trop habile et trop cynique pour qu'on pût vraiment l'aimer. Pourrait-il jamais exister quelqu'un qui le remplirait d'une aussi étrange idolâtrie? Était-ce là une de ces choses que la vie lui réservait? « Cela me paraît extraordinaire, Dorian, dit Hallward, que vous ayez réellement vu cela dans le portrait. L'avez-vous réellement vu? J'y voyais quelque chose, répondit-il, quelque chose qui me semblait très curieux. Bien, admettez-vous, maintenant que je le regarde? Dorian secoua la tête. Il ne faut pas me demander cela, Basil. Je ne puis vraiment vous laisser face à face avec ce tableau. Vous y arriverez un jour. Jamais. Peut-être avez-vous raison. Et maintenant, au revoir, Dorian. Vous avez été la seule personne dans ma vie qui ait vraiment influencé mon talent. Tout ce que j'ai fait de bon, je vous le dois. Ah, vous ne savez pas ce qu'il m'en coûte de vous dire tout cela. Mon cher Basil, dit Dorian, que m'avez-vous dit? Simplement que vous sentiez m'admirer trop. Ce n'est pas même un compliment. Ce ne pouvait être un compliment. C'était une confession. Maintenant que je l'ai faite, il me semble que quelque chose de moi s'en est allé. Peut-être ne doit-on pas exprimer son adoration par des mots. C'était une confession très désappointante. Qu'attendiez-vous donc, Dorian? Vous n'aviez rien vu d'autre dans le tableau. Il n'y avait pas autre chose à voir. Non, il n'y avait rien de plus à y voir. Pourquoi le demander? Mais il ne faut pas parler d'adoration. C'est une folie. Vous et moi sommes deux amis. Nous devons nous en tenir là. Il vous reste Harry, dit le peintre tristement. Oh, s'écria l'adolescent avec un éclat de rire. Harry passe ses journées à dire des choses incroyables et ses soirées à faire des choses invraisemblables. Tout à fait le genre de vie que j'aimerais. Mais je ne crois pas que j'irai vers Harry dans un moment d'embarras. Je viendrai à vous aussitôt, Basil. Vous poserez encore pour moi? Impossible. Vous gâtez ma vie d'artiste en refusant Dorian. Aucun homme ne rencontre deux fois son idéal. Très peu ont une seule fois cette chance. Je ne puis vous donner d'explication, Basil. Je ne dois plus poser pour vous. Il y a quelque chose de fatal dans un portrait. Il a sa vie propre. Je viendrai prendre le thé avec vous. Ce sera tout aussi agréable. Plus agréable pour vous, je le crains, murmura Howard avec tristesse. Et maintenant, au revoir. Je suis fâchée que vous ne vouliez pas me laisser regarder encore une fois le tableau, mais nous n'y pouvons rien. Je comprends parfaitement ce que vous éprouvez. Lorsqu'il fut parti, Dorian se sourit à lui-même. Pauvre Basil, comme il connaissait peu la véritable raison. Et comme cela était étrange qu'au lieu d'avoir été forcé de révéler son propre secret, il avait réussi presque par hasard à arracher le secret de son ami. Comme cette étonnante confession l'expliquait à ses yeux. Les absurdes accès de jalousie du peintre, sa dévotion farouche, ses panégyriques extravagants, ses curieuses réticences, il comprenait tout maintenant et il en éprouva une contrariété. Il lui semblait qu'il pouvait y avoir quelque chose de tragique dans une amitié aussi empreinte de romanesque. Il soupira, puis il sonna. Le portrait devait être caché à tout prix. Il ne pouvait courir plus longtemps le risque de le découvrir au regard. Ça avait été de sa part une vraie folie que de le laisser même une heure dans une chambre où tous ses amis avaient libre accès. Fin du chapitre 9, lu par Martine.
Chapitre 10 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 10. Quand le domestique entra, il l'observa attentivement, se demandant si cet homme avait eu la curiosité de regarder derrière le paravent. Le valet était parfaitement impassible et attendait ses ordres. Dorian alluma une cigarette et marcha vers la glace, dans laquelle il regarda. Il y pouvait voir parfaitement la face de Victor qui s'y reflétait. C'était un masque placide de servilisme. Il n'y avait rien à craindre de ce côté. Cependant, il pensa qu'il était bon de se tenir sur ses gardes. Il lui dit, d'un ton très bas, de demander à la gouvernante de venir lui parler et d'aller ensuite chez l'encadreur le prier de lui envoyer immédiatement deux de ses hommes. Il lui sembla, lorsque le valet sortit, que ses yeux se dirigeaient vers le paravent, ou, peut-être, était-ce un simple effet de son imagination. Quelques instants après, Madame Leaf, vêtue de sa robe de soie noire, ses mains ridées couvertes de mitaines à l'ancienne mode, entrait dans la bibliothèque. Il lui demanda la clef de la salle d'études. « La vieille salle d'études, monsieur Dorian ? » s'exclama-t-elle. « Mais elle est toute pleine de poussière. Il faut que je la fasse mettre en ordre et nettoyer avant que vous y alliez. Elle n'est pas présentable pour vous, monsieur.
pas du tout présentable. Je n'ai pas besoin qu'elle soit en ordre, Leaf. Il me faut la clé, simplement. Mais, monsieur, vous serez couvert de toile d'araignée si vous y allez. Comment ? On ne l'a pas ouverte depuis 5 ans, depuis que sa seigneurie est morte. » Il tressaillit à cette mention de son grand-père. Il en avait gardé un souvenir détestable. « Ça ne fait rien, » dit-il. « J'ai seulement besoin de voir cette pièce, et c'est tout. Donnez-moi la clé. »« Voici la clé, monsieur, » dit la vieille dame, cherchant dans son trousseau d'une main fiévreuse. « Voici la clé. Je vais tout de suite l'avoir retirée du trousseau. Mais je ne pense pas que vous vous proposez d'habiter là-haut, monsieur. Vous êtes ici, si confortablement. »« Non, non, » s'écria-t-il avec impatience. « Merci, Leaf. C'est très bien. » Elle s'attarda un moment, très loquace, sur quelques détails du ménage. Il soupira et lui dit de faire pour le mieux, suivant son idée. Elle se retira en minaudant. Lorsque la porte se fut refermée, Dorian mit la clé dans sa poche et regarda autour de lui. Ses regards s'arrêtèrent sur un grand couvre-lit de satin pourpre, chargé de lourdes broderies d'or, un splendide travail vénitien du XVIIe siècle que son grand-père avait trouvé dans un couvent près de Bologne. Oui, cela pourrait servir à envelopper l'horrible objet. Peut-être cette étoffe avait-elle déjà servi de drap mortuaire. Il s'agissait maintenant d'en couvrir une chose qui avait sa propre corruption, pire même que la corruption de la mort, une chose capable d'engendrer l'horreur et qui cependant ne mourrait jamais. Ce que les vers sont au cadavre, ses péchés le seraient à l'image peinte sur la toile. Il détruirait sa beauté et rongerait sa grâce. Il la souillerait, la couvrirait de honte. Et cependant, l'image durerait. Elle serait toujours vivante. Il rougit et regretta un moment de n'avoir pas dit à Basile la véritable raison pour laquelle il désirait cacher le tableau. Basile l'eût aidé à résister à l'influence de Lord Henry et aux influences encore plus empoisonnées de son propre tempérament. L'amour qu'il lui portait, car c'était réellement de l'amour, n'avait rien que de noble et d'intellectuel. Ce n'était pas cette simple admiration physique de la beauté qui naît des sens et qui meurt avec la fatigue des sens. C'était un tel amour qu'avaient connu Michel-Ange et Montaigne et Winckelmann et Shakespeare lui-même. Oui, Basile eût pu le sauver, mais il était trop tard maintenant. Le passé pouvait être anéanti. Les regrets, les reniements ou l'oubli pourraient faire cela, mais le futur était inévitable. Il y avait en lui des passions qui trouveraient leur terrible issue, des rêves qui projetteraient sur lui l'ombre de leur perverse réalité. Il prit sur le lit de repos la grande draperie de soie et d'or qui le couvrait, et, la jetant sur son bras, passa derrière le paravent. Le portrait était-il plus affreux qu'avant ? Il lui sembla qu'il n'avait pas changé, et son aversion pour lui en fut encore augmentée. Les cheveux d'or, les yeux bleus et les roses rouges des lèvres, tout s'y trouvait. L'expression seulement était autre. Cela était horrible dans sa cruauté. En comparaison de tout ce qu'il y voyait de reproches et de censures, comme les remontrances de Basile à propos de Sibyl Vane, lui semblait futile, combien futile et de peu d'intérêt. Sa propre âme le regardait de cette toile et le jugeait. Une expression de douleur couvrit ses traits et il jeta le riche linceul sur le tableau. Au même instant, on frappa à la porte. Il passait de l'autre côté du paravent au moment où son domestique entra. « Les encadreurs sont là, monsieur. » Il lui sembla qu'il devait d'abord écarter cet homme. Il ne fallait pas qu'il sût où la peinture serait cachée. Il y avait en lui quelque chose de dissimulé. Ses yeux étaient inquiets et perfides. S'asseyant à sa table, il écrivit un mot à Lord Henry, lui demandant de lui envoyer quelque chose à lire et lui rappelant qu'il devait se retrouver à 8h15, le soir. « Attendez la réponse, » dit-il en tendant le billet au domestique, « et faites entrer ces hommes. » 2 minutes après, on frappa de nouveau à la porte, et M. Hubbard, lui-même, le célèbre encadreur de South Audley Street, entra avec un jeune aide à l'aspect rébarbatif. M. Hubbard était un petit homme florissant, aux favoris roux, dont l'admiration pour l'art était fortement atténuée par l'insuffisance pécuniaire des artistes qui avaient affaire à lui. D'habitude, il ne quittait point sa boutique, il attendait qu'on vînt à lui, mais il faisait toujours une exception en faveur de Dorian Gray. Il y avait en Dorian quelque chose qui charmait tout le monde. Rien que de le voir était une joie. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Gray ? » dit-il en frottant ses mains charnues et marquée de taches de rousseur. J'ai cru devoir prendre pour moi l'honneur de vous le demander en personne. J'ai justement un cadre de toute beauté, monsieur, une trouvaille faite dans une vente. Du vieux Florentin. Cela vient, je crois, de Fantil, conviendrait admirablement à un sujet religieux, monsieur Gray.
Je suis fâché que vous vous soyez donné le dérangement de monter, monsieur Hubbard. J'irai voir le cadre, certainement, quoique je ne sois guère, en ce moment, amateur d'art religieux.
Mais aujourd'hui, je voulais seulement faire monter un tableau tout en haut de la maison. Il est assez lourd et je pensais à vous demander de me prêter deux de vos hommes.
Aucun dérangement, monsieur Gray. Toujours heureux de vous être agréable. Quelle est cette œuvre d'art ?
La voici, répondit Dorian en repliant le paravent. Pouvez-vous la transporter telle qu'elle est là, avec sa couverture ? Je désire qu'elle ne soit pas abîmée en montant.
Cela est très facile, monsieur, dit l'illustre encadreur, se mettant, avec l'aide de son apprenti, à détacher le tableau des longues chaînes de cuivre auxquelles il était suspendu.
Et où devons-nous le porter, monsieur Gray ? Je vais vous montrer le chemin, monsieur Hubbard, si vous voulez bien me suivre. Ou peut-être feriez-vous mieux d'aller en avant. Je crains que ce ne soit pas bien haut. Nous passerons par l'escalier du devant, qui est plus large.
Il leur ouvrit la porte, ils traversèrent le hall, et ils commencèrent à monter. Les ornements du cadre rendaient le tableau très volumineux, et de temps en temps, en dépit des obséquieuses protestations de monsieur Hubbard, qui éprouvait, comme tous les marchands, un vif déplaisir à voir un homme du monde faire quelque chose d'utile, Dorian leur donnait un coup de main. « C'est une vraie charge à monter, monsieur, » dit le petit homme, haletant, lorsqu'ils arrivèrent au dernier palier. Il épongeait son front dénudé. « Je crois que c'est en effet très lourd, » murmura Dorian, ouvrant la porte de la chambre qui devait receler l'étrange secret de sa vie et dissimuler son âme aux yeux des hommes. Il n'était pas entré dans cette pièce depuis plus de 4 ans, non vraiment, pas depuis qu'elle lui servait de salle de jeu, lorsqu'il était enfant, et de salle d'études un peu plus tard. C'était une grande pièce, bien proportionnée, que Lord Kelso avait fait bâtir spécialement pour son petit-fils. Pour cet enfant, que sa grande ressemblance avec sa mère et d'autres raisons lui avaient toujours fait haïr et tenir à distance. Il sembla à Dorian qu'elle avait peu changé. C'était bien là, la vieille cassonnée italienne, avec ses moulures dorées et ternies, ses panneaux aux peintures fantastiques, dans laquelle il s'était si souvent caché étant enfant. C'était encore les rayons de bois vernis remplis des livres de classe aux pages cornées. Derrière était tendue au mur la même tapisserie flamande déchirée, où un roi et une reine fanée jouaient aux échecs dans un jardin, tandis qu'une compagnie de fauconniers cavalcadaient au fond, tenant leurs oiseaux chaperonnés au bout de leurs poings gantés. Comme tout cela revenait à sa mémoire, tous les instants de son enfance solitaire s'évoquaient pendant qu'il regardait autour de lui. Il se rappela la pureté sans tache de sa vie d'enfant, et il lui sembla horrible que le fatal portrait dût être caché dans ce lieu. Combien peu il eût imaginé, dans ces jours lointains, tout ce que la vie lui réservait. Mais il n'y avait pas dans la maison d'autres pièces aussi éloignées des regards indiscrets. Il en avait la clé, nul autre que lui n'y pourrait pénétrer. Sous son linceul de soie, la face peinte sur la toile pourrait devenir bestiale, boursouflée, immonde, qu'importait. Nul ne la verrait. Lui-même ne voudrait pas la regarder. Pourquoi surveillerait-il la corruption hideuse de son âme ? Il conserverait sa jeunesse, c'était assez, et en somme, son caractère ne pouvait-il s'embellir ? Il n'y avait aucune raison pour que le futur fût aussi plein de honte. Quelque amour pouvait traverser sa vie, la purifier et la délivrer de ses péchés, rampant déjà autour de lui en esprit et en chair, de ces péchés étranges et non décrits auxquels le mystère prête leur charme et leur subtilité. Peut-être un jour l'expression cruelle abandonnerait la bouche écarlate et sensitive. Il pourrait alors montrer au monde le chef-d'œuvre de Basil Hallward. Mais non, cela était impossible. Heure par heure et semaine par semaine, l'image peinte vieillirait. Elle pourrait échapper à la hideur du vice, mais la hideur de l'âge la guettait. Les joues deviendraient creuses et flasques. Des pattes d'oie jaunes cercleraient les yeux flétris, les marquant d'un stigmate horrible. Les cheveux perdraient leur brillant. La bouche, affaissée et entr'ouverte, aurait cette expression grossière ou ridicule qu'ont les bouches des vieux. Elle aurait le cou ridé, les mains
aux grosses veines bleues, le corps déjeté de ce grand-père qui avait été si dur pour lui dans son enfance. Le tableau devait être caché au regard. Il ne pouvait en être autrement. « Faites-le rentrer, s'il vous plaît, monsieur Hubbard, » dit-il avec peine en se retournant. « Je regrette de vous tenir si longtemps. Je pensais à autre chose. » « Toujours heureux de se reposer, monsieur Gray, » dit l'encadreur qui soufflait encore. « Où le mettrons-nous ? » « Oh, n'importe où. Ici, cela ira. Je n'ai pas besoin qu'il soit accroché. Posez-le simplement contre le mur. Merci. » « Peut-on regarder cette œuvre d'art, monsieur ?» Dorian tressaillit. « Cela ne vous intéresserait pas, monsieur Hubbard, » dit-il, ne le quittant pas des yeux. Il était prêt à bondir sur lui et à le terrasser s'il avait essayé de soulever le voile somptueux qui cachait le secret de sa vie. « Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vous suis très obligé de la bonté que vous avez eue de venir ici. Pas du tout, monsieur Gray. Toujours prêt à vous servir. » Et monsieur Hubbard descendit vivement l'escalier, suivi de son aide, qui regardait Dorian avec un étonnement craintif répandu sur ses traits grossiers et disgracieux. Jamais il n'avait vu personne d'aussi merveilleusement beau. Lorsque le bruit de leurs pas se fut éteint, Dorian ferma la porte et mit la clef dans sa poche. Il était sauvé. Personne ne pourrait regarder l'horrible peinture. Nul œil que le sien ne pourrait voir sa honte. En regagnant sa bibliothèque, il s'aperçut qu'il était 5 heures passées et que le thé était déjà servi. Sur une petite table de bois noir parfumé, délicatement incrustée de nacre, un cadeau de Lady Ratley, la femme de son tuteur, charmante malade professionnelle qui passait tous les hivers au Caire, se trouvait un mot de Lord Henry, avec un livre relié de jaune, à la couverture légèrement déchirée et aux tranches salies. Un numéro de la 3e édition de la St. James Gazette était déposé sur le plateau à thé. Victor était évidemment revenu. Il se demanda s'il n'avait pas rencontré les hommes dans le hall lorsqu'il quittait la maison, et s'il ne s'était pas enquis auprès d'eux de ce qu'ils avaient fait. Il remarquerait sûrement l'absence du tableau, l'avait même sans doute déjà remarqué en apportant le thé. Le paravent n'était pas encore replacé, et une place vide se montrait au mur. Peut-être le surprendrait-il une nuit, se glissant en haut de la maison et tâchant de forcer la porte de la chambre. Il était horrible d'avoir un espion dans sa propre maison. Il avait entendu parler de personnes riches exploitées toute leur vie par un domestique qui avait lu une lettre, surpris une conversation, ramassé une carte avec une adresse, ou trouvé sous un oreiller une fleur fanée ou un lambeau de dentelle. Il soupira et, s'étant versé du thé, ouvrit la lettre de Lord Henry. Celui-ci lui disait simplement qu'il lui envoyait le journal et un livre qui pourrait l'intéresser, et qu'il serait au club à 8h15. Il ouvrit négligemment la St. James Gazette et la parcourut. Une marque au crayon rouge frappa son regard à la 5e page. Il lut attentivement le paragraphe suivant. « Enquête sur une actrice. Une enquête a été faite ce matin à Bell Taverne, Hoxton Road, par M. Danby, le coroner du district, sur le décès de Sibyl Vane, une jeune actrice récemment engagée au Théâtre Royal, Holborn. On a conclu à la mort par accident. Une grande sympathie a été témoignée à la mère de la défunte, qui se montra très affectée pendant qu'elle rendait son témoignage, et pendant celui du docteur Birrell, qui a dressé le bulletin de décès de la jeune fille. Il s'assombrit et, déchirant la feuille en deux, se mit à marcher dans la chambre en piétinant les morceaux du journal. Comme tout cela était affreux, quelle horreur véritable créait les choses. Il en voulut un peu à Lord Henry de lui avoir envoyé ce reportage. C'était stupide de sa part de l'avoir marqué au crayon rouge. Victor pouvait l'avoir lu. Cet homme savait assez l'anglais pour cela. Peut-être même l'avait-il lu et soupçonnait-il quelque chose. Après tout, qu'est-ce que cela pouvait faire? Quel rapport entre Dorian Gray et la mort de Sibyl Vane? Il n'y avait rien à craindre. Dorian Gray ne l'avait pas tué. Ses yeux tombèrent sur le livre jaune que Lord Henry lui avait envoyé. Il se demanda ce que c'était. Il s'approcha du petit support octogonal au ton de perles qui lui paraissait toujours être l'œuvre de quelques étranges abeilles d'Égypte, travaillant dans de l'argent. Et, prenant le volume,
il s'installa dans un fauteuil et commença à le feuilleter. Au bout d'un instant, il s'y absorba. C'était le livre le plus étrange qu'il eût jamais lu. Il lui sembla qu'au son délicat de flûte, les péchés du monde, exquisement vêtus, passaient devant lui en un muet cortège. Ce qu'il avait obscurément rêvé prenait corps à ses yeux. Des choses qu'il n'avait jamais imaginées se révélaient à lui graduellement. C'était un roman sans intrigue, avec un seul personnage, la simple étude psychologique d'un jeune Parisien qui occupait sa vie en essayant de réaliser, au XIXe siècle, toutes les passions et les modes de pensée des autres siècles, et de résumer en lui les états d'esprit par lesquels le monde avait passé, aimant pour leur simple artificialité ces renonciations que les hommes avaient follement appelées vertus, aussi bien que ces révoltes naturelles que les hommes sages appellent encore péchés. Le style en était curieusement ciselé, vivant et obscur tout à la fois, plein d'argot et d'archaïsme, d'expressions techniques et de phrases travaillées, comme celui qui caractérise les ouvrages de ces fins artistes de l'école française, les symbolistes. Il s'y trouvait des métaphores aussi monstrueuses que des orchidées et aussi subtiles de couleurs. La vie des sens y était décrite dans des termes de philosophie mystique. On ne savait plus par instant si on lisait les extases spirituelles d'un saint du Moyen-Âge ou les confessions morbides d'un pêcheur moderne. C'était un livre empoisonné. De lourdes vapeurs d'encens se dégageaient de ses pages, obscurcissant le cerveau. La simple cadence des phrases, l'étrange monotonie de leur musique, toute pleine de refrains compliqués et de mouvements savamment répétés, évoquaient dans l'esprit du jeune homme, à mesure que les chapitres se succédaient, une sorte de rêverie, un songe maladif, le rendant inconscient de la chute du jour et de l'envahissement des ombres. Un ciel vert de grisé, sans nuages, piqué d'une étoile solitaire, éclairait les fenêtres. Il lut à cette blême lumière tant qu'il lui fut possible de lire. Enfin, après que son domestique lui eut plusieurs fois rappelé l'heure tardive, il se leva, alla dans la chambre voisine déposer le livre sur la petite table florentine qu'il avait toujours près de son lit et s'habilla pour dîner. Il était près de 9 heures lorsqu'il arriva au club, où il trouva Lord Henry assis tout seul dans le salon, paraissant très ennuyé. « J'en suis bien fâché, Harry, » lui cria-t-il, « mais c'est entièrement de votre faute. Le livre que vous m'avez envoyé m'a tellement intéressé que j'en ai oublié l'heure. »« Oui, j'ai pensé qu'il vous plairait, » répliqua son hôte en se levant. « Je ne dis pas qu'il m'a plu, je dis qu'il m'a intéressé. Il y a une grande différence. »« Ah, vous avez découvert cela, » murmura Lord Henry. Et ils passèrent dans la salle à manger.
Fin du chapitre 10.